Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je reprends donc l'examen des commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du sixième commandement, qui est « Tu ne commettras point l'impureté ». On pourrait intituler, comme on pourrait mettre en sous-titre, « Du bon vivant au syndicat du crime ». Sixième et neuvième commandements de Dieu sont souvent liés dans les présentations traditionnelles, comme les premiers et deuxièmes, et les septièmes et... les sixièmes et neuvièmes. S'ils étaient superflus, on aurait très bien pu ramener le nombre de commandements à 7. Il faut croire que s'il y en a 10, c'est que chacun a sa spécificité. Pour le sixième commandement, je me suis permis de prendre la traduction du catéchisme de Saint Pie X, plus large que l'énoncé traditionnel qui se limite à prohiber l'adultère. Ce commandement intéresse plutôt la vie individuelle, alors que le neuvième « Tu ne désireras pas la femme d'autrui » a trait à l'amour humain, l'activité la plus fondamentale des hommes avec le travail. On pourrait dire que le sixième commandement est plutôt horizontal, le neuvième étant incontestablement vertical, puisque selon saint Paul, l'union de l'homme et de la femme est une image de celle du Christ et de l'Église. On pourrait d'abord se demander, essayer de faire la distinction entre péché grave ou peccadille. Les discussions sur ce péché ont toujours été passionnées. À côté d'austères censeurs qui tensent d'un doigt décharné tremblant d'indignation les ivrognes et les débauchés, brandissant saint Paul, écrivant aux Éphésiens, quant à la fornication et à l'impureté qu'il n'en soit même pas fait mention parmi vous, à côté de ces orateurs que l'on devine bileux et émaciés, il y a ceux qui font remarquer que le Christ n'avait pas de paroles trop dures pour les pharisiens et les scribes, ses sépulcres blanchis, ainsi que pour le mauvais riche qu'il a pardonné à la femme adultère, a longuement enseigné à la Samaritaine, sans parler de Sainte Marie-Madeleine, et qu'il a dit aux prêtres et aux anciens, « Je vous le déclare en vérité, les publicains et les filles de joie vous précéderont dans le royaume de Dieu. » C'est en saint Matthieu, chapitre 21, verset 31. Ce commandement et les péchés qu'il désigne, parmi lesquels deux péchés capitaux, la gourmandise et la luxure, semblent décidément distincts des autres. Avant tout, il regarde les deux fonctions essentielles que nous avons en commun avec les animaux. Comme nous, les animaux se nourrissent et se reproduisent. C'est probablement pour cela que la majeure partie des plaisanteries courent sur ces sujets, thèmes scatologiques, histoires d'ivrognes, de salles de garde, ou bien histoires macabres, histoires de fous. Elles ont toutes en commun de ramener l'homme à ses dimensions animales. Tout le monde reconnaît la hauteur de pensée de Blaise Pascal, mais il sera toujours comique, même si ce n'est pas du meilleur goût, de l'imaginer aux toilettes. De plus, ces fonctions sont indispensables, au moins au niveau de l'espèce, alors qu'on peut très bien vivre sans grande richesse, sans tuer personne, ni même quoi que ce soit une pitié, sans connaître ni adorer Dieu. Mais le sixième commandement de Dieu et les fonctions de nutrition et de reproduction sont essentielles. Le sixième commandement prescrit simplement de rester dans certaines limites. Une première difficulté est que les limites physiques varient d'un individu à l'autre. Tel est ivre après 2 verres de vin, alors qu'un autre ne le sera pas après avoir bu 2 litres. C'est pourquoi le buveur d'eau qui fulmine contre l'amateur de Vaune Romanée et de Sauterne a toujours quelque chose de grotesque. Dans le domaine amoureux, la sagesse populaire sait bien que quand le diable se fait vieux, il se fait ermite. Le plus grand danger est que ce genre de péché est particulièrement aimable et séduisant, ce qui explique qu'il s'agit souvent de péchés de faiblesse. Il est rare d'être très attiré par l'orgueil véritable, même si on est volontiers vaniteux. On n'est que poussé au crime, il faut être dévoyé pour considérer comme modèle l'avare crispé sur son sac de pièces d'or. Tandis que la gourmandise et la luxure paraissent a priori hautement délectables. D'où l'indulgence de maintes locutions. Il faut bien que jeunesse se passe. Le poète dit « Cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie » et saint Paul, sans l'approuver, cite les païens qui disent « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». L'indulgence étant volontaire aux individus, et personne ne cherche chez Noise à ce vagabond plutôt sympathique que mon père a connu pendant son enfance, qui était complètement ivre tous les dimanches soirs et chantait ou plutôt braillait les vêpres en parcourant les rues du village. Remarquons enfin qu'il s'agit de ce que l'on pourrait appeler un péché d'amour. Certes, et on l'a répété avec juste raison, l'homme choisit toujours un bien, et l'assassin est convaincu qu'il va améliorer sa situation. Il est toutefois certain qu'il n'aime pas sa victime. Dans le cas de la luxure et de la gourmandise, au contraire, il y a un amour positif, celui des bonnes choses. C'est un amour désordonné, mais qui pourrait être légitime en d'autres circonstances. Mais il y a le péché de faiblesse. Peut-être n'est-il pas inutile d'examiner de plus près en quoi ce type de faute est si dangereux, en dépit des multiples circonstances qui peuvent aller jusqu'à faire douter de son existence dans certains cas. On peut ainsi en résumer les 5 étapes. Premièrement, pardon pour les actes où ma faiblesse m'entraîne. Deuxièmement, que voulez-vous ? Je suis fait comme cela. Troisièmement, ce n'est pas ma faute si je suis ainsi. Quatrièmement, si le bon Dieu voulait que j'agisse autrement, il n'avait qu'à me faire autrement. Cinquièmement, je suis comme je suis, et ceux qui n'en sont pas satisfaits n'ont qu'à s'en accommoder, y compris les prêtres et Dieu lui-même. La glissade est insensible d'une étape à l'autre. C'est pourquoi tous les bons auteurs conseillent de lutter contre les péchés de faiblesse, même si on ne peut les éviter, afin d'en rester au premier stade, pardon pour les actes où ma faiblesse l'entraîne, humiliant s'il en est, qui consiste à reconnaître que l'on reste esclave de ses humeurs, de ses désirs, à être persuadé qu'il vaudrait mieux qu'il n'en soit pas ainsi. C'est en ce sens que les filles de joie dont parle l'Évangile entreront les premières dans le royaume des cieux grâce à la conscience qu'elles ont de leur indignité, de la pauvreté spirituelle qu'implique leur misérable métier, alors que le pharisien se croit pur et à ce titre pense avoir des droits sur Dieu. La grandeur de l'homme réside dans sa liberté. C'est en vertu d'un acte volontaire qu'il choisit de suivre ce que son intelligence lui a montré comme bien. Mais il n'est pas libre de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, je peux facturer 5 kilos de carottes à quelqu'un qui m'en a acheté 2 fois 2 kilos. Ce n'est pas pour autant que je puisse affirmer que 2 plus 2 égale 5. Au rebours des animaux qui sont parfaitement programmés, comme on dit de nos jours, et qui à ce titre ne peuvent se tromper, un peu comme les ordinateurs qui jouent aux échecs, l'homme doit découvrir le bien puis y adapter sa conduite. Tout son mérite est dans l'exercice de cet amour. Lorsque la violence de sa nature l'entraîne en dehors du droit chemin, il doit avoir au moins l'honnêteté de reconnaître que ce n'est pas bien, sinon c'est la pire corruption de l'intelligence. Faute d'un programme adéquat, il tombe alors en dessous de la bête. Mais on peut voir comment on peut aller de la luxure au crime. Si l'on considère comme bien établi que tout désir est légitime, et n'a aucune raison d'être refoulé, la pente qui mène à la destruction est rapide. Chercher à tirer la destruction de soi-même d'abord, chercher à tirer le plus possible de plaisir de son corps, comme le cherchait le pauvre Falstaff, mène toujours à la destruction de soi-même. La sensualité s'émousse. Si on aime une femme ou un homme que pour le plaisir que l'on éprouve à son contact, on est vite lassé, on en essaie d'autres, on se livre à 1000 excentricités avant de sombrer dans l'homosexualité en attendant pire. On commence par le vin, mais il faut en boire beaucoup pour parvenir à l'ivresse. On suit alors par des alcools de plus en plus forts, puis c'est le LSD, la cocaïne, l'opium. La recherche du plaisir fait place à celle de la jouissance, puis la défonce de plus en plus totale. La personnalité se dissout dans des sensations de plus en plus violentes qui débouchent sur la ruine de l'être et souvent sur le suicide. Il y a aussi l'asservissement des autres. Le plaisir se prend toujours à deux, et même à plusieurs, comme en témoignent les réunions de drogués. On va alors asservir l'autre à ses désirs. On débouche sur les horreurs de la prostitution, en particulier de la prostitution enfantine. J'ai lu dans une revue digne de foi que de riches touristes étrangers amateurs de tourisme sexuel en Asie du Sud-Est exigeaient toutes les garanties contre le sida. C'est une des caractéristiques des lâches de ne jamais vouloir assumer les conséquences de leurs actes. Pas de suite, pas de maladie, pas d'enfant, et ça se dit adulte et responsable. Alors on leur réserve des fillettes vierges quand ce ne sont pas des garçonnets pour cet ignoble usage. Et les trafiquants de s'enrichir par la souillure de ces malheureux enfants. Cela dit, il est certain que celui qui veut faire l'ange fait la bête, il est encore plus évident que celui qui veut faire la bête y arrive parfaitement. Le 6e commandement nous rappelle que l'esprit est plus que le corps, car au royaume des cieux, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir seront comme des anges, car ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection, comme le dit saint Luc, dans le chapitre 20. C'est pourquoi saint Paul recommandait de s'abstenir de propos scabreux, point de propos déplacés, de bouffonnerie ni de plaisanterie grossière. Ah, mais ça peut aller jusqu'à la destruction des autres. C'est le cas des crimes des sadiques, qui torturent et tuent leurs victimes pour jouir de leur désarroi et de leur terreur. Ces bas-fonds sont heureusement rares, mais existent, comme en témoigne toute une littérature de plus en plus répandue, même dans les bibliothèques de gare. Notons en passant que le sinistre Sade était issu d'une illustre famille avignonnaise qui a donné à la France maint capitaine glorieux. Il faudrait aussi citer tous les crimes commis dans le cadre de ses activités, crimes dans les annales de ce qu'on appelle le milieu. Ces annales regorgent et font le pain quotidien des romans policiers et autres films noirs. Crimes aussi des trafiquants de drogue, qui n'hésitent pas à déclencher de véritables guerres comme en Colombie, au Panama et ailleurs. Loin de chanter les louanges de ce monde souterrain, il faudrait avoir le courage de crier qu'il s'agit d'un monde sans foi ni loi, si ce n'est celle du plus fort. Hein, du bon vivant au chef de réseau de drogue, la faiblesse peut nous entraîner très loin. Regardons le cas d'Hérode, père de Salomé. Il avait pris sa belle-sœur chez lui. Que voulez-vous, la chair est faible. Saint Jean-Baptiste le lui ayant reproché, il le mit en prison pour avoir la paix avec la mégère qu'il aurait bien mieux fait de laisser à son frère. Il ne pouvait faire autrement, bien qu'il appréciât beaucoup Saint Jean-Baptiste, il l'écoutait volontiers, nous assure Saint Marc, chapitre 6. On connaît la suite, et comment en conclusion d'un pari stupide engagé après une beuverie terminée par un spectacle érotique, il fut amené à faire tuer celui qu'il considérait comme un prophète. Le sixième commandement est celui du respect de toute chose matérielle utilisée par les hommes. Respect de soi-même d'abord. Ne jamais se laisser aller plus loin qu'on ne voudrait. On descendrait plus bas que l'animal. Je me rappelle un dessin qui a bercé ma jeunesse. On y voyait un singe complètement ivre, une bouteille à la main, deux de ses congénères commandés, le pauvre Joko, voilà qu'il s'adonne à l'ivrognerie, ce vice affreux qui rabaisse la bête au niveau de l'homme. Respect des autres, et spécialement de celui ou de celle avec qui on s'unit intensément. Il faudrait proclamer que l'acte sexuel n'est pas analogue à boire un verre d'eau, comme le disait Lénine, mais le signe qu'on est en une seule chair. De plus, c'est la seule alliance que Dieu avait conclue avec les hommes et qui n'a pas été rompue par le péché originel. Chaque fois que les hommes ont engendré un corps, Dieu s'engage à y mettre une âme semblable à lui. Ce qui est énorme. Donc il y a dans l'union de l'homme et de la femme quelque chose de sacré, même si, par ailleurs, cette activité est plutôt agréable, voire rendue très désirable par un désir, un feu qui nous consume. La conduite de la jeune fille sage est intrinsèquement bien meilleure que celle du débauché, ce qui pour un chrétien est évident, puisque nos corps sont le temple du Saint-Esprit. L'homme se conduit toujours dans le respect, sans lui il n'y a qu'une brute sanguinaire. Les anciens le savaient déjà, de Socrate aux stoïciens, qui prenaient l'abandon à la providence. Saint Paul a parfaitement résumé dans son épître aux Colossiens, « Quoi que vous fassiez, quoi que vous désiriez, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce pour lui à Dieu le Père. » J'ai peut-être été un peu long, j'ai terminé pour aujourd'hui.